Une vie érotique.
Ma vie érotique.
Bienvenue dans Une vie érotique, le podcast qui déshabille la vie sexuelle des gens. Dans cet épisode, je vous propose de retirer un à un les vêtements de Ludivine, ou du moins de faire tomber une à une les couches successives de son histoire. Bonjour Ludivine.
Bonjour.
Ludivine, tu es une femme de 49 ans, tu aimes les hommes et la littérature érotique. Tu t'es décrite à moi comme, je cite, une mère de famille qui reprend sa liberté sexuelle à 40 ans passés. Qu'est-ce que ça veut dire reprendre sa liberté sexuelle? Et je crois que toi, ça a d'abord commencé par l'écriture d'un roman avant de passer aux choses concrètes.
Ça a commencé effectivement dans le fantasme. Puisqu'il y a eu un moment par rapport à, après bon, plusieurs années, de nombreuses années de fidélité exemplaire, parce que j'avais pris un engagement et que je souhaitais m'y tenir. Et puis à un moment, l'envie, la curiosité, le manque de cet aspect séduction, etc., c'est vraiment manifesté. Et comme j'aime beaucoup écrire et que j'aime beaucoup lire, eh ben, je me suis mis à écrire. Donc j'ai écrit l'histoire imaginaire d'une femme adultère, de ses rencontres, des rencontres donc qu'elle faisait, de sa vie sexuelle. Du coup, je me suis aussi confrontée à l'écriture des scènes érotiques en me disant, tant qu'à faire, est-ce que je suis capable d'écrire ça? Est-ce que je suis capable d'écrire ces mots-là? Est-ce que je suis capable de décrire une scène d'amour entre un homme et une femme, les sentiments, les sensations, les organes, etc. Et en fait, oui, j'en étais capable. Et en plus, ça m'a beaucoup, beaucoup amusée. Donc, j'ai écrit un roman en entier, 300 pages, avec un début, une fin, un manuscrit complet, qui s'est révélé absolument impubliable, mais qui m'a beaucoup fait du bien. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai exploré à travers ça et tout le fantasme d'une vie sexuelle qui me manquait, en fait. Avec surtout cet aspect découverte de l'autre, séduire quelqu'un de nouveau, être séduite, le pétillement dans le regard de l'autre la première fois qu'il voit vos seins, enfin des choses qui me manquaient, en fait, parce que je les vivais plus.
Donc, pour recontextualiser les choses, tu étais mariée depuis un certain nombre d'années avec des enfants et tu ne désirais plus ton mari. Et donc, c'était vers quel âge? Vers 45 ans?
Après 40 ans.
Après
42-43, à peu près. 42-43, c'est là que j'ai commencé à écrire, justement, à ressentir ce manque, ce besoin. C'est-à-dire qu'effectivement, j'avais un mari que j'aimais, qui était le père de mes enfants, que j'avais choisi, vraiment, pratiquement 20 ans auparavant, qui avait pris beaucoup de poids, ce que j'avais beaucoup de mal à supporter. Ça peut paraître terrible, mais c'est vrai que j'aime pas les gros. Et j'avais pas signé pour un gros, et de le voir devenir gros, ça m'exaspérait et vraiment ça me repoussait, quoi. Et donc je ne le désirais plus, je le lui ai demandé de faire attention à lui, de changer d'hygiène de vie, etc. Il était conscient de ça, il était conscient de mon absence de désir, il en souffrait, mais il faisait rien. On continuait à faire l'amour parce que j'avais quand même du désir tout court, parce que j'avais quand même une libido assez présente. J'ai toujours eu une libido assez présente. Et donc, j'avais besoin de faire l'amour. Donc, puisqu'il était là, on faisait l'amour. Donc, j'avais pas envie de lui en particulier, quoi. Limite, je fermais les yeux, quoi. C'était quand même assez, quand on y pense, assez terrible par rapport à ça. Et donc, j'avais envie, de toucher un ventre plat, de toucher une poitrine d'homme, un corps d'homme. J'avais vraiment, vraiment envie de ça, mais je me résolvais pas à passer à l'acte parce que je considérais que j'avais pris un engagement. Et donc, il m'a fallu du temps avant de sauter le pas.
Et alors, quand tu l'as fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu as fréquenté des sites de rencontres, c'est ça?
Alors, ça, c'était après. Ouais. J'ai commencé par rencontrer quelqu'un qui vraiment, là, pour le coup, a cristallisé tous les désirs de rencontres que j'avais pu avoir auparavant, que j'ai considéré au départ comme une relation sexuelle, qu'on a considéré lui comme moi, parce qu'il était en couple également, un couple en fin de vie aussi, mais pas mûr encore à éclater, un peu dans la même situation que moi. Et donc, on a considéré au début, je pense qu'on s'est leurré tous les deux, que c'était uniquement, justement, sexuel pour relâcher la pression, pour se faire plaisir ensemble. Et de fait, on s'est extrêmement bien entendu de ce point de vue-là. Et puis, un jour, il y a eu un basculement. Vraiment, un jour, on s'est regardé tous les deux, alors qu'on était en train de faire l'amour, on s'est dit, putain, mais c'est pas que de la fuck, en fait. Et là, on était un peu ennuyés, on savait pas trop ce qu'on allait faire. Et puis finalement, la décision s'est prise très très vite. J'ai quitté mon mari, il a quitté sa femme et on est partis tous les deux.
Et pourquoi j'évoque cet épisode en premier, c'est parce que finalement ça cristallise beaucoup de représentations, d'injonctions en fait, puisque toi tu as vécu une espèce de lynchage collectif après cette rupture.
Ah ça c'est vrai que j'ai... Donc la rupture ça a été un moment très douloureux parce que j'ai fait de la peine à des gens que j'aimais, donc j'ai fait particulièrement de la peine à mon mari qui est vraiment tombé de l'armoire, qui... Enfin, pour lui, j'étais une femme à principe et donc c'était impossible que je m'en aille. C'est un peu aussi ce que je lui reproche, c'est-à-dire qu'il a jamais eu peur de me perdre. Et je pense que quand on n'a jamais peur de perdre l'autre, bah, on se laisse aller. Et l'autre, il a l'impression qu'il fait partie des meubles. Et ça, c'était quelque chose qui m'exaspérait. Et donc, si, en fait, il me perdait. Et donc, c'était affreux parce qu'il a vraiment été très, très meurtri. Mes enfants ont beaucoup souffert aussi parce que c'est quand même une expérience traumatisante dans une vie d'enfant et d'adolescent. Donc ça, je le savais, ça, je l'avais anticipé. Ma famille, je savais que ce serait très dur, parce que dans mon milieu, on fait pas ça. On serre les dents et on pense à la France et on attend que ça passe. Donc je me suis fait assassiner par ma famille. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est les amis, enfin les pseudo-amis, qui, pour certains, me sont tombés dessus, les amis IES, les copines, qui me sont mais tombés dessus, en me disant, mais enfin, on fait pas ça, on quitte pas son mari parce qu'il est gros, qu'est-ce que tu crois, c'est dur pour tout le monde, t'as qu'à serrer les dents, pourquoi tu veux absolument être heureuse, c'est quoi ce qui a pris? Bah, en fait, parce qu'on n'est pas là pour en chier, en fait, finalement, pourquoi on serait pas heureux, pourquoi on ferait pas ce qu'on se ressent le besoin ou le désir de faire? Effectivement, j'ai choisi moi au détriment des autres. Ça, c'est effectivement égoïste. Mais en même temps, si j'avais choisi les autres et que je m'étais sacrifiée, je pense pas que quiconque aurait pu y gagner parce que je pense que je l'aurais assez mal vécu. Donc, moi, j'ai pas l'esprit de sacrifice. Mais les gens m'en ont vraiment voulu et en particulier les filles. Je me suis vraiment fait tomber dessus par certaines amies dont la réaction m'a vraiment, la violence de la réaction m'a surprise. Mais parce qu'elle traduisait, je pense, une certaine forme de jalousie par rapport à une liberté que moi j'avais prise et que dont elle rêvait sans jamais l'admettre peut-être.
Et donc tu appartiens à un milieu plutôt conservateur, catholique, c'est ça ?
Oui, plutôt, grande bourgeoisie catholique, très traditionnelle dans la façon de penser, du genre j'ai été élevée sur jamais avant le mariage, c'était un principe. Maintenant, on n'était pas une famille très coincée, on était plutôt décontractée dans la famille et par rapport au sexe, évidemment c'était pas un sujet dont on parlait à table, mais disons qu'il y avait des plaisanteries un peu lestes, ma mère aimait bien rigoler, les plaisanteries salaces, les jeux de mots, etc. Enfin, c'était pas un sujet vraiment tabou, mais il y avait quand même une certaine morale chrétienne à respecter. On se mariait, on avait des enfants, on arrêtait de travailler au moins quelques temps, voire toute sa vie pour les élever, quand on était leur mère, évidemment. On en avait beaucoup, on s'occupait de sa famille, enfin, un truc assez quand même classique et traditionnel, en ce qui concerne les femmes en particulier.
Mais toi, tu as vécu en fait cette reprise de ta liberté sexuelle au moment où, je crois à peu près au moment où tu as découvert que ton père était bisexuel, c'est ça ?
Alors j'ai mis du temps à faire le lien, mais effectivement, à 40 ans, j'avais l'impression que tout allait très bien. J'avais mes trois enfants, j'étais très heureuse de ma vie, j'étais très bien dans mon couple, enfin vraiment tout allait bien. Et puis, je sais pas exactement quand, mais entre 42 et 43, j'ai eu ce sentiment que tout à coup, tout foutait le camp et que ça n'allait plus. Et il se trouve que c'est également à ce moment-là, mais ce qui est drôle, c'est que j'ai fait le lien plus tard, que j'ai appris par une sorte d'indiscrétion de ma sœur, qui elle le savait depuis plus longtemps que moi, que mon père en fait était bisexuel. Et que avant ma naissance, ma mère l'avait découvert, que je suis donc la seule des enfants de ma famille, de ma fratrie, à être née après. Mes parents sont restés ensemble, ma mère a décidé de rester, probablement aussi par sens du devoir, peut-être aussi par sens du devoir, sens du sacrifice, elle est restée. Je l'ai pris de façon assez positive, c'est-à-dire que mon père, que j'avais toujours trouvé très très froid, tout à coup me paraissait plus humain. Ça, c'est assez curieux. J'ai pas du tout été dans le jugement vis-à-vis de lui. Je sais que ma sœur, quand elle y pense, ça la dégoûte. Ah, mais quand même, c'est dégueulasse, les hommes entre eux, c'est dégueu. Moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Ça me touche presque d'une certaine manière. Je pense que ça remonte à loin, en plus, de vraiment à sa jeunesse. Et quelque part, il a sacrifié cette orientation en se conformant à ce que son milieu attendait de lui. Finalement, il a fait pas vraiment un coming out. Il a fait un coming out simplement vis-à-vis de sa femme. Après, j'ai découvert que dans la famille, beaucoup de gens le savaient. Enfin, c'était un espèce de secret de polichinelle. Tout le milieu de mes parents le savait. Toute la famille le savait. Et tout le monde affectait de ne pas le savoir. Et tout ça pour dire que, en fait, ce qui était curieux, j'ai découvert que le modèle familial traditionnel auquel je m'étais conformée reposait sur un truc un peu spécial et un peu hypocrite, en fait, puisque finalement, le couple de mes parents, on n'en était pas vraiment un, ou en tout cas, c'était un couple un peu bizarre par rapport à ça.
Et tu penses que ça a eu une conséquence, toi, dans ton comportement après ?
Je pense que ça m'a libérée, c'est-à-dire que les pulsions que j'avais et que je m'interdisais d'assouvir parce que ça ne se fait pas ou parce que je me conformais à ce que on attendait de moi... Eh ben, ça a fait sauter un verrou qui disait, ben, après tout, si lui, il a pu avoir des relations homosexuelles, pourquoi est-ce que moi, je choisirais pas ma propre liberté aussi? Et puis, par rapport à ma mère aussi, qui, elle, quelque part, s'est sacrifiée en restant dans un couple qui n'en était plus un, ben, moi, j'ai fait le choix de pas rester et de pas mentir et de pas vivre un adultère longue durée comme ça arrive quelquefois, et de faire tout éclater et de tout faire péter. C'était peut-être un peu violent, mais je me voyais pas vivre dans le mensonge pendant 5 ans.
Et pour remonter un peu le temps, on pourra revenir sur cette période de ta vie après. Justement, comme on parle de ta famille, comment on parlait de sexualité chez toi quand tu étais une jeune fille ou une adolescente ?
Bah, plutôt par la plaisanterie. C'est-à-dire
que
voilà, c'était pas un sujet vraiment tabou. On l'évoquait volontiers. On racontait des blagues que quand j'étais petite, je ne comprenais pas forcément. On n'en parlait pas directement, mais c'était pas non plus... J'ai jamais été élevée, il me semble, avec la sexualité, c'est sale ou c'est dégoûtant. On m'a jamais interdit de voir mon corps, toucher mon corps. On m'a pas dit non plus que j'avais le droit de me masturber et que c'était sain et naturel, comme moi j'ai pu le dire à mes enfants. Mais par contre, j'ai pas ressenti d'interdit par rapport à ça. J'ai pas eu le sentiment de vivre et de grandir au milieu, enfin sous un interdit. Interdit sexuel très fort, sinon l'interdit social du genre, en principe, on couche avec son futur mari, quelquefois avant le mariage, idéalement après le mariage. C'était ça l'espèce de règle, mais moi j'ai su très très vite que je la respecterais pas. Moi, le jamais avant le mariage, j'étais bien trop curieuse pour attendre jusque-là.
Et cette curiosité, tu l'as ressentie assez tôt. Est-ce que tu te souviens de tes premières sensations érotiques ?
Pas précisément, mais je me souviens des circonstances. C'est-à-dire que, comme beaucoup chez moi, c'est parti des livres. Donc, dans la bibliothèque de mes parents, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de livres. On est vraiment une famille de grands lecteurs. Et parmi les livres, alors il y avait de tout, hein, de la grande littérature, mais aussi de la littérature de gare, puisqu'il y avait beaucoup de SAS. Et puis, il y avait aussi des Lozier, des BD de Lozier, donc BDastes des années 70, qui racontaient beaucoup des histoires de partout. C'était la grande mode apparemment à l'époque. Enfin, on a commencé à en parler beaucoup à cette époque-là. Et donc, j'ai lu ces BD-là, j'ai lu les SAS où je cherchais que les scènes de cul, principalement par curiosité. Je devais avoir 13-14 ans, quelque chose comme ça, et je voulais comprendre comment ça marchait, qui faisait quoi à qui, comment ça fonctionnait, et donc ça assouvissait d'une part ma curiosité, et puis ça me faisait de l'effet aussi. Et donc c'est de là qu'a commencé ma curiosité et mon intérêt pour le sujet.
Est-ce que tu as commencé à te caresser à cette période-là, ou est-ce que c'était après ?
Je me rappelle pas précisément, mais je pense que je me rappelle avoir volontiers exploré mon corps. Pas forcément, par exemple, j'ai aucun souvenir de l'avoir regardé, d'avoir regardé mon sexe avec un miroir, par exemple, le truc qu'on voit dans les films féministes, etc., qui est sûrement très bien. Moi, j'éprouvais pas forcément ce besoin, c'était par le toucher. Donc, je l'ai beaucoup exploré par le toucher, du coup, exploré les sensations. En revanche, j'ai pas tellement le souvenir d'avoir vraiment atteint l'orgasme toute seule en me masturbant. En tout cas, je m'en souviens pas, mais je me caressais presque machinalement, en fait, un peu comme les garçons qui ont tout le temps la main dans le bain. Bah, c'était un peu, je faisais pas ça en public évidemment, mais le soir je m'endormais souvent en me caressant. C'était comme peut-être une façon d'apprivoiser, enfin en tout cas de comprendre un peu comment c'était fait.
Et avec tes amis d'enfance, est-ce que vous parliez de ce sujet ?
Alors, je me souviens pas précisément non plus. Je sais qu'on jouait à des jeux. J'avais une copine, on devait avoir, c'était avant même 14 ans, on devait avoir 10, 12 ans. Je me rappelle de ça. On jouait aux prostituées. Alors, on jouait aux prostituées. Alors, je sais pas exactement. Je me rappelle plus ce qu'on faisait. On faisait semblant. Alors, pas du tout ensemble. On s'est jamais touché. Je n'ai aucun souvenir d'attouchement, avec des copines. C'est vraiment un truc, est-ce que c'était tabou? Est-ce qu'on en avait pas envie? Je ne sais pas, mais on s'est jamais exploré mutuellement. Mais par contre, on jouait aux prostituées. Alors, j'ai lu la dérobade, de Jeanne Cordelier, trop tôt du point de vue de ma mère, qui l'avait planqué. Je l'ai exhumé. Je l'ai lu à 14 ou 15 ans. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Mais il me semble que c'était avant. Qu'on jouait à ça, donc on devait savoir ce que c'était. Et je me rappelle qu'on employait le mot pipe en sachant à peu près ce que ça voulait dire, en disant, oh là là, j'ai fait 3 pipes aujourd'hui. Bon, je pense que les prostituées font beaucoup plus, mais bon, c'était, voilà, on jouait avec cette copine à ça, à être des travailleuses du sexe. C'est quand même un jeu curieux pour les petites filles, je pense.
Mais est-ce que vous mimiez le tapin?
Je me rappelle pas. Je pense qu'on mimait, je pense qu'on se déguisait, je pense qu'on, du coup, on jouait à être des femmes sexuellement agressives, en tout cas, comment dire, des femmes sexy, du haut de nos 12 ans avec zéro sein et zéro poil. Je sais pas pourquoi on allait chercher ce truc-là, on devait mimer les scènes, ça je me rappelle plus précisément, mais on devait mimer des scènes, on faisait semblant, on imaginait ce genre de choses, j'imagine.
Et malgré ta curiosité dévorante, tu as embrassé un garçon pour la première fois à 18 ans.
Ouais. Alors ça, ce décalage, il est assez terrible et j'en ai quand même... Bon, maintenant, j'en rigole, mais j'en ai quand même, je pense, beaucoup souffert. C'est-à-dire qu'en fait, je paraissais très, très jeune, beaucoup plus jeune que mon âge. Quand j'avais 15 ans, on m'en donnait 11-12. Du coup, les garçons de mon âge, forcément, s'intéressaient pas du tout à moi. Du coup, j'ai jamais quelqu'un, dans la cour du collège, on m'a jamais dit, est-ce que tu veux sortir avec moi? Ça n'arrivait pas, puisque justement, j'avais l'air trop jeune. Bon, je jouais un peu la carte de l'intello, j'avais plein de copains, j'étais pas du tout esselée, mais effectivement, par rapport aux relations amoureuses, je n'en avais pas, parce que, effectivement, personne n'était attiré par moi, parce que j'étais pas du tout féminine, j'étais encore une enfant. Et en plus, je m'habillais un peu garçon, je m'habillais plutôt bien, mais j'étais beaucoup en pantalon. Mais il me semble, dans mon souvenir, quand même assez féminine. Je me coiffais bien, j'assortissais les couleurs, je faisais attention à la façon dont je m'habillais. Mais j'avais l'air d'avoir 12 ans alors que j'en avais 15. Donc forcément, le temps qu'un garçon s'intéresse à moi, il a fallu que je sois en terminale. Donc j'avais 17 ans. Et lui, il était en première. Mais bon, je me suis dit, tant pis, on va pas chipoter. C'est le premier qui se présente. Il était plutôt beau mec, en plus. Donc, allons-y, sortons ensemble. Mais que les baisers, pour le coup.
Et ta première fois, c'était aussi à 18 ans.
Et ma première fois, du coup, ça s'est très rapproché. C'est fou, parce que effectivement, j'ai embrassé mon premier garçon, j'étais en terminale, et j'ai couché avec mon premier garçon, j'étais en première année de fac. Donc ça a été très, très vite. Et entre-temps, il y a eu quelques amourettes, quelques embrassades de plage. Et alors là, pour le coup, j'avais aucun scrupule. Je pouvais embrasser 3 ou 4 garçons dans la même soirée. C'était pas un problème. Ça m'amusait beaucoup. J'explorais. Je me rappelle avoir commencé les premiers attouchements dans une baraque de plage en Normandie, à côté de la boîte de nuit, le Brooklyn, c'est des souvenirs comme ça, voilà. J'avais trouvé ça chouette, d'ailleurs. On n'était pas allé plus loin, je ne sais pas exactement, je pense que je ne voulais quand même pas, mais j'avais bien aimé me faire tripoter par ce garçon qui s'appelait Bertrand, qui était métisse, d'ailleurs, je me rappelle. Bref, premier souvenir, et donc là, j'avais 17-18 ans, donc j'étais en fait super en retard par rapport à ça, si on y pense, par rapport à pas mal de filles de mon âge. Et du coup, la première fois, j'étais très amoureuse. Alors, j'avais attendu celui-là, parce que c'était celui-là que je voulais. Il y en avait un autre qui était très amoureux de moi et très beau. J'aurais dû commencer avec lui pour me faire la main, mais je voulais que le premier, ce soit celui dont j'étais amoureuse. Ça, donc, était lui. Et il m'a largué le lendemain. Donc ça, c'était...
Comment tu l'as vécu ?
Mal. J'étais très, 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 très furieuse. J'étais très en colère, quand même. Très triste. Je me souviens avoir pleuré des litres et des litres. Je prenais un bain avec ma cousine qui me consolait en me traitant de tous les noms. La technique classique des filles quand elles consolent leurs copines. Et je pleurais, et je pleurais, et je pleurais. Le bain allait déborder. Et puis, 2 ou 3 jours après, à la fac, je me suis fait brancher par un mec pas mal. Et je me suis dit, bon, allez, on va, traiter le mal par le mal d'une certaine manière. Et je l'ai ramené chez moi. J'avais la chance d'habiter toute seule. J'avais un appart en ville. Et pour voir, je sais pas, pour voir ce que ça me ferait de, justement, sitôt après ma première fois, plutôt désastreuse en termes de résultats, puisque je m'étais quand même fait larguer le lendemain. Enfin, je sais pas, j'avais peut-être besoin de me rassurer sur ma capacité à ne pas forcément faire fuir un mec, alors que, enfin, c'était une relation. Là, pour le coup, c'était forcément un one shot, quoi. Je savais que le type, je voudrais pas qu'il reste. Et bah, c'était plutôt un assez bon souvenir. Il m'a léché, je me souviens. Donc, c'est la première fois, parce que l'autre, il l'avait pas fait, le grand amour. Donc, plutôt un bon souvenir. J'avais trouvé ça plutôt chouette. Et le lendemain matin, donc il était resté la nuit, le lendemain matin, il m'avait dit « Toi, tu feras ce que tu veux des hommes avec le cul ». Et je l'avais regardé en lui disant « Non, mais de quoi il me parle ? C'est ma deuxième fois, ça y est, il me prend pour la reine du sexe, c'est n'importe quoi. » Enfin, je l'avais vraiment pas pris au sérieux, ça m'avait fait rire, je m'étais un peu moquée de lui. Et par contre, ça m'est toujours resté. C'est-à-dire que je m'étais dit « Oh, c'est pas mal quand même comme concept, tu feras toujours ce que tu veux. » Enfin, l'intérêt pour le sexe est peut-être né de là, finalement.
Et par la suite, tu as continué à expérimenter cette liberté sexuelle, cette curiosité sans trop de, comment dire, enfin, ouais, sans entrave, en fait.
Ah, bah oui, c'est-à-dire que, donc, bah, j'avais la chance d'avoir des facilités logistiques puisque j'avais mon propre appartement. J'étais à la fac, j'avais personne sur le dos pour surveiller mes faits et gestes, à part mes amis coincés qui me disaient que je faisais n'importe quoi et que c'était pas sérieux. J'en avais absolument rien à faire de ce qu'ils me disaient. Je leur disais que c'était pas leur problème. Et effectivement, bah, c'était assez simple, en fait, comme ça devrait l'être à cet âge-là. C'est-à-dire que je rencontrais un mec qui me plaisait, je le ramenais chez moi, on faisait l'amour la nuit, et puis, ou la journée, hein, peu importe. On se revoyait pas. Enfin, il n'y avait pas d'affect, forcément. Les fois où je suis tombée amoureuse, ça ne me faisait pas retarder d'autant le passage à l'acte. Je voyais pas le rapport, en fait, le coup de faire attendre. Je voyais pas trop l'intérêt. Moi, si j'avais envie de quelqu'un et qu'il me plaisait, je voyais pas pourquoi il faudrait attendre 3, 4 jours, 5 jours. Les filles disaient faut les faire attendre. Moi, je comprenais pas trop l'intérêt du truc. Donc j'étais effectivement libre de mes pensées et comportements, et je faisais ce que je voulais avec qui je voulais. Voilà.
Mais c'est ça, en fait, tu n'as jamais aimé les injonctions qui pèsent sur les femmes dans les rapports de séduction, qui renvoient de la passivité à s'apprêter, à se faire attendre, se faire désirer, être conquise. Ça, c'est quelque chose qui t'a pas parlé, en fait.
Non, ça, c'est quelque chose qui me parlait pas du tout. En fait, je crois quand même que dès cet âge-là, j'étais un peu pas rebelle, mais le côté cliché m'exaspérait. Le plan attendre que ce soit l'homme qui vienne t'embrasser, pencher la tête en arrière, fermer les yeux et attendre qu'il t'embrasse, c'était pas du tout mon truc. J'avais souvent tendance à prendre les devants. Tellement je voulais pas être dans ce cliché-là, j'avais souvent tendance à prendre les devants, voire à faire les premiers pas, ce qui surprenait les mecs, mais leur plaisait plutôt, en fait. Ça les surprenait tellement que c'était plutôt positif. Et je voulais jouer les princesses inatteignables. Je voyais vraiment pas du tout le propos. Surtout que, en fait, je comprenais pas cette dialectique comme si mon cul était un cadeau ou quelque chose qu'il fallait mériter. Je comprenais pas ce truc-là, parce que pour moi, on était deux à se faire plaisir. Et moi aussi, j'éprouvais du plaisir. Donc pourquoi différer ce plaisir ? Je comprenais vraiment pas ce truc-là. C'est un truc que je n'ai jamais compris, en fait. Et j'expliquais à mes copines, mais c'est quoi l'intérêt d'attendre 4 soirs, 5 soirs, voire 3 semaines ? Et j'avais une grande théorie d'ailleurs que j'exposais à qui mieux, qui disait autant coucher le premier soir, parce que d'abord, comme ça, si c'est un mauvais coup, t'es tout de suite fixée, hein, plutôt que de tomber amoureuse et après de tomber de l'armoire. Et ensuite, si c'est quelqu'un qui n'en veut qu'à ton cul, comme ça, le lendemain, il est parti et t'es fixée tout de suite, au lieu d'attendre un mois, d'être tombée amoureuse de lui, de coucher avec lui. Et en fait, tu découvres au bout d'un mois qu'il en voulait qu'à ton cul et il est parti, mais maintenant tu pleures. Alors que si tu le faisais tout de suite, t'étais fixée. Après, il y avait aussi le truc, oui, mais les filles vont te prendre pour une fille facile, oui, et donc je suis pas plus facile qu'eux, hein. Eux aussi, ils ont couché le premier soir, donc il est où le problème ? Je suis jamais rentrée dans la différence garçon-fille, ça j'ai jamais compris non plus.
Et ta sexualité à cette époque-là, elle était épanouissante ? Enfin, je veux dire, t'avais accès au plaisir ?
Alors la fameuse première fois avec l'amoureux, le premier amoureux, je me souviens pas très bien, on était quand même plutôt dans l'exploratoire. Donc, j'ai pas eu d'orgasme. Le deuxième, celui qui m'a léché, je me souviens de sensations quand même, ça m'avait bien plu. Et puis, petit à petit, garçon après garçon, je me souviens de sensations de plus en plus fortes, quelquefois tellement fortes que quelquefois il fallait que j'arrête, en fait, tellement ça me paraissait hyper fort et que ça me faisait, c'est pas que ça me faisait peur, mais j'avais un réflexe. Plusieurs fois, j'ai ce souvenir-là, c'est drôle, je vois encore ma chambre d'étudiante, c'est drôle, en racontant ça, où j'avais vraiment besoin de le faire sortir de moi tellement, oh, c'était fort. Donc, du coup, c'était, vaginal, hein. J'ai ressenti un plaisir vaginal assez tôt, finalement. Et après, ça n'a été que de mieux en mieux. Alors après, selon les relations que j'ai eues, un peu plus longues, il y a des garçons avec qui je me souvenais que c'était vachement, vachement, vachement bien. D'autres, je me souviens de la relation, mais je me souviens pas du tout de ce que ça donnait côté cul. C'est assez étrange. Je l'ai dit à un ex récemment, je me dis, mais est-ce qu'on s'entendait bien sexuellement? J'ai aucun souvenir. Il a assez mal pris, en fait. Et donc, oui, je crois avoir... j'ai eu de la chance par rapport à ça, parce que j'ai découvert le plaisir et clitoridien et vaginal assez vite, en fait.
Donc, c'était au moment de la fac où tu multipliais les expériences. Mm-hmm.
Plusieurs expériences. Je me souviens aussi, pareil, pendant cette période-là, la première fois où un mec m'a parlé, en fait, en me faisant l'amour, en me disant « je vais faire ci, puis après je vais faire ça ». Donc, au départ, je me disais, j'étais un peu interloquée, mais pourquoi il me parle? Il n'a pas besoin de me décrire ce qu'il me fait. Puis, je me suis rendu compte petit à petit que je trouvais ça hyper excitant, en fait. Et donc ça, le fait de se parler, c'est un truc que j'ai découvert assez tôt et qui m'a plu. Donc, comme ça, petit à petit, découverte après découverte, rencontre après rencontre, je satisfaisais ma curiosité en découvrant des sexualités différentes, des sexes différents, des façons de caresser différentes. Et ça me plaisait bien, cette différence.
Et à ce moment-là, les commentaires qu'on pouvait te dire justement sur ce qu'il fallait faire ou pas, ça ne t'atteignait en rien?
Ah, pas du tout. Enfin, moi, ça, je pense que pour le coup, c'est drôle, quand j'y pense, j'allais dire, je l'ai hérité de mon père, donc il avait quand même finalement cette espèce d'indépendance d'esprit. C'est une forme d'orgueil, hein, je pense, qui considère que, en fait, je me foutais de ce que les autres pensaient de moi. Ça ne m'atteignait pas. Et quelque part, ça les renvoyait, eux, à leur propre... Enfin, je les trouvais coincés et je me disais, vraiment, ça ne m'atteignait pas. J'ai aucun souvenir que ça m'ait perturbée.
Et donc, tu as eu aussi un groupe d'amis, je crois, où, enfin, ils étaient plus tolérants, ceux-là, et où il y avait des histoires entre vous et c'était plus libre.
Alors, effectivement, c'est vrai qu'à cette époque, donc, mes amis de la fac, c'était mes amis les rallyes, donc plutôt Rededeux, Particules... Cato et compagnie. Donc effectivement, leur jugement moral venait évidemment de là. Et puis petit à petit, avec ma meilleure amie, on s'était dit, mais il y a sûrement d'autres gens à rencontrer dans cette ville. Et on s'est mis à aller un peu faire les terrasses de café, enfin à aller un peu à la rencontre des autres jeunes de notre âge, ceux qui n'étaient pas du même milieu. Mon Dieu, quelle horreur! Et on a découvert enfin des gens sympas, aimant faire la fête, décontractés et surtout à l'aise avec leur corps et à l'aise avec leur sexualité. Et ça, ça a été un grand changement, parce qu'effectivement, évoluer dans un milieu où effectivement on pouvait coucher avec quelqu'un avec qui on avait passé la soirée à discuter et le lendemain soit recoucher ensemble et le faire pendant une semaine mais sans être vraiment en couple, ou alors ne pas le refaire mais que ni l'un ni l'autre ne méprise l'autre. Enfin, il y avait vraiment un espèce de rapport, il me semble, relativement égalitaire, où effectivement tout le monde couchait avec tout le monde. Et moi, dans mon souvenir, c'est quelque chose d'assez sain, en fait. C'est-à-dire que c'était une espèce de, je ne sais pas, de d'aisance avec nos corps, les uns avec les autres, et même entre amis. C'est-à-dire qu'il nous arrivait de dire à quelqu'un, un ami avec qui on avait déjà couché dans le passé, de dire « Oh tiens, tu rentres avec moi ce soir », et on rentrait ensemble et on faisait l'amour, et puis le lendemain, on s'embrassait sur les deux joues et la vie continuait. Et pour moi, c'est un très bon souvenir, en fait, cette époque. Et pour la plupart de mes amis aussi.
C'est à peu près à ce moment-là que tu as rencontré ton mari ?
C'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon mari, qui évoluait dans cette bande-là aussi, qui était plutôt plus sérieux, on va dire. Lui, il avait besoin... Alors lui, pour le coup, c'était le cliché féminin à l'envers, c'est-à-dire qu'il avait besoin d'être amoureux pour faire l'amour. Et donc, d'ailleurs, quand on a commencé à sortir ensemble, mais on a mis... au moins un ou deux mois à coucher ensemble. Et moi, je comprenais pas ce qui se passait, quoi. Je disais à mes copines, mais qu'est-ce qui se passe? Elles me disaient, mais t'inquiète pas, c'est lui, il est comme ça, bon, ok. Mais moi, j'étais vraiment dans une impatience, mais lui, il avait besoin de sentiments. Il était comme ça, donc c'était plutôt quelqu'un, on dirait, de sérieux. Je sais pas si ça veut dire être sérieux, mais en tout cas, il avait pas forcément le même rapport que moi, mais ça veut pas forcément dire qu'il était coincé. C'est simplement que c'était un homme qui s'engage, je pense. Parce qu'il était pas vraiment coincé sexuellement. On s'est assez vite bien entendu. On a bien aimé. Enfin, on a été assez libres l'un avec l'autre. Et c'est avec lui finalement que j'ai découvert d'autres choses encore basées sur la confiance et des effectivement du coup découvert des autres pratiques sexuelles comme la fellation par exemple que je n'avais pas expérimenté auparavant. Jamais. En 2 ans, je sais pas combien de une vingtaine d'amants. Je sais pas, j'en avais jamais eu envie. Dieu merci, personne ne m'y avait jamais obligé. Je pense que ça se serait pas bien passé. Et j'ai commencé à en avoir envie, peut-être aussi parce que c'était ma première relation vraiment longue. Auparavant, je suis jamais restée avec quelqu'un plus de 2 mois. Et donc effectivement, j'ai découvert une nouvelle dimension à la sexualité, c'est-à-dire la confiance. La confiance en l'autre, du coup l'abandon encore plus fort. Et effectivement, une découverte à deux de pas mal de choses, de lieux incongrus, de circonstances incongrues, enfin vraiment des choses plus inventives parce qu'on est en confiance.
T'as un souvenir particulier de lieux incongrus ou d'expériences incongrues ?
Je me souviens au début de notre relation, on allait à une soirée, je sais plus où, en pleine cambrousse, et puis tout à coup, on a eu envie l'un de l'autre et on s'est arrêté dans les bois, on est sorti de la voiture et on a fait l'amour en plein air comme ça, ce qui m'était jamais arrivé auparavant. J'ai un autre souvenir de plage, une nuit. Là, on était déjà parents, hein, on avait déjà des enfants et on rentrait du resto tous les deux. Et pareil, on s'est attrapés dans les rochers à la plage. C'était un joli souvenir. Pas mal de choses comme ça.
Donc, il y avait une vraie complicité entre vous.
Oui, ouais, il y avait une vraie complicité entre nous sexuelle et on s'entendait bien, oui.
Et en fait, tu avais donc cette liberté-là et tu avais eu pas mal d'amants, mais au moment de te marier, tu as décidé que là, tu serais fidèle.
Oui, ça je me souviens très bien, l'injonction que je me suis faite à moi-même. Je me suis mariée à l'église en plus, on échange les alliances, et quand on échange les alliances, on dit « je te donne cet anneau, gage de notre amour et de notre fidélité ». Et donc là, je me suis dit « ma cocotte, c'est pas des trucs qu'on dit à la légère, maintenant tu vas t'y tenir et tu vas faire l'effort de t'y tenir ». Bon, j'avais une petite voix mezzo voce qui disait le plus longtemps possible, parce qu'au fond de moi, j'y croyais pas à fond, ça me paraissait inconcevable la vie durant. Mais je me suis dit le plus longtemps possible. Et effectivement, je m'y suis tenue, et j'ai tenu très longtemps, 18 ans.
Et donc, entre-temps, t'as été maman.
Oui.
Quel impact ça a, la maternité, sur la sexualité ? Sur la tienne, en tout cas.
Alors, le premier enfant, avec l'effet effectivement un peu dévastateur que ça peut avoir par rapport à tout change dans votre vie. Et tout à coup, moi qui étais très, très égoïste, tout à coup, il y avait quelqu'un qui passait avant moi. Donc ça a été assez phénoménal comme impression. La vie sexuelle, j'ai mis du temps après le premier. Grosse épisio, donc un petit traumatisme, une peur d'avoir mal. Et donc, du coup, une libido un peu ralentie pendant, on va dire, facilement 6 mois. Et puis après, bon, c'est revenu très bien. Après le deuxième, la phase de moindre libido a été beaucoup plus courte. Je me rappelle qu'un mois, après, c'était reparti. Et le plus dingue, c'était le troisième, où déjà pendant la grossesse, ça n'arrêtait pas. Et après, tout de suite après, enfin genre 15 jours après, hop, c'était reparti. Et là, j'ai eu l'impression d'avoir une explosion de libido après le troisième, alors que j'avais autour de 40 ans.
Et finalement, tu dis que tes enfants t'ont pas mal occupé aussi et ont dévié peut-être ton attention d'une aspiration à d'autres partenaires.
Bah ça, je crois quand même que la plupart des parents qui s'occupent de leurs enfants, que ce soit leur père ou leur mère, quand on est beaucoup sur les enfants avec l'œil rivé sur la montre pour pas louper la sortie d'école, etc., tout. Les choses innombrables qu'on a à faire quand on a des enfants, entre remplir le frigo, vider la machine, prendre les rendez-vous de pédiatre, de machin, d'ophtalmo, etc., etc., bah ça, plus le boulot, enfin, c'est juste une vie de dingue, en fait, d'être parent. Et c'est vrai que avoir du temps pour autre chose, du temps pour soi, déjà, c'est compliqué. Moi, j'arrivais à me préserver du temps pour aller au cinéma ou au musée. Mais je me disais, quand je voyais des films avec des gens adultères, je me disais, mais où est-ce qu'ils trouvent le temps? Comment ils font? J'avais pas le temps et du coup, j'ai pas eu tellement de tentations, j'ai pas tellement de mérite à avoir été sage comme une image pendant toutes ces années parce que j'ai pas vraiment eu le sentiment d'être confrontée à beaucoup, beaucoup de tentations. J'ai fait quelques rencontres, des mecs qui m'ont fait du gros rentre-dedans, j'ai adoré ça. J'ai joué avec l'idée pendant plusieurs jours après et puis après ça passait.
Tu dis aussi que tu t'es ressentie femme ou en tout cas plus sexuelle quand ils ont grandi en fait.
Ah ça, je me souviens vraiment du sentiment de libération, j'appelais ça le syndrome de la poussette, du syndrome de libération, du sentiment de libération à partir du moment où je n'ai plus eu de poussette. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte de ce que c'est que de pousser une poussette. Pousser une poussette, ça vous fait rentrer la tête dans les épaules, ça vous fait rentrer les épaules, ça vous donne une attitude qui est tout sauf conquérante, qui est préoccupée et stressée, surtout que la poussette, elle est toujours trop lourde et qu'on est toujours en retard. Et à partir du moment où donc mon dernier a été grand et n'a plus eu de poussette, mes épaules se sont dégagées, je me suis mise à remarcher droit dans la rue, je me suis mise à porter des talons qui me donnaient justement une allure conquérante que j'adorais. J'ai aussi laissé pousser mes cheveux parce que auparavant j'avais une coupe de cheveux pratique au carré et j'ai laissé pousser mes cheveux et je me suis sentie beaucoup plus femme et beaucoup plus sexy à partir de ce moment-là. À partir du moment où les enfants étaient plus grands et que je pouvais fermer le chapitre mère et rouvrir le chapitre femme.
Et du coup, tu as eu envie d'autre chose?
Alors, la première envie que j'ai eue, déjà, c'est aussi de clore définitivement le chapitre mère en me faisant opérer. Ça, pour moi, ça a été très fondateur. C'est-à-dire que je me suis fait, stériliser, donc volontairement. Et ça m'a apporté... Donc, j'étais encore mariée. Quel âge j'avais? J'avais 42 ans. Et j'avais décidé que, de toute façon, quoi qu'il arrive dans ma vie... Je ne voulais plus d'enfants. Donc, j'ai trouvé plus simple de me faire opérer. Et c'est vrai que psychologiquement, j'ai senti une vraie libération. C'est-à-dire que ça y est, le chapitre mère, alors, il n'est pas clos parce qu'on sera toujours mère et mes enfants, je m'en occupe toujours. Mais maintenant, j'allais redevenir une femme. Et j'ai vraiment senti cette libération très, très fortement. Et je pense que ça a joué aussi, du coup, sur le fait, OK, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai commencé à regarder autour de moi.
Et tu regardais quoi?
Eh bien, je regardais les hommes. Je regardais les hommes que je croisais dans la rue, même je me rappelle sur le chemin de l'école, je croisais des mecs qui tenaient leur enfant par la main pour les conduire à la maternelle, et pratiquement chaque homme que je croisais, je me demandais si ça ferait un amant possible. C'était incroyable, je pensais au cul tout le temps en fait, je pensais à séduire, mais vraiment tout le temps. À chaque fois que je croisais un homme, que ce soit dans le contexte professionnel ou familial, enfin avec les enfants, etc., je regardais un mec toujours comme un objet sexuel potentiel. C'est-à-dire, est-ce qu'il me plaît? Oui. Est-ce que je me le ferais bien? Oui. Après, ça s'arrêtait là parce qu'on va pas brancher un père de maternelle comme ça dans la rue. Donc j'étais quand même un peu bien embêtée, mais je commençais à vraiment, vraiment avoir envie d'aller voir ailleurs, quoi, clairement.
Et la stérilisation, ça t'a pas du tout fait bizarre? Enfin, ça t'a libéré plutôt?
Ça m'a complètement libérée. Pour moi, c'était vraiment un truc ultra, ultra positif. Je me rappelle que ça avait beaucoup choqué ma sœur, le principe même. Et moi, je disais, mais j'ai 42 ans, je peux encore concevoir des enfants, mais clairement, si je suis enceinte aujourd'hui, je peux te dire que c'est certain que je le garde pas. Qu'est-ce que je vais courir le risque de me faire faire une IVG à 43 ans qui pourrait être très désagréable, alors que je peux résoudre le problème définitivement? Le côté la nature, machin, etc., non, justement, ça m'évitait d'avoir toujours cette problématique de la contraception, et je l'ai vraiment senti comme une libération.